Isabelle Huppert, la voici.
C'est compliqué parce qu'on aime quand même toujours plaire. Enfin, y a... Mais s'il s'agit de dire qu'on n'a pas peur de... Oui, de pas être gentil, par exemple. Enfin, vous voyez, d'aborder des zones comme ça perturbantes. Oui, c'est le moins qu'on puisse faire. C'est ce qu'on demande à la littérature, c'est ce qu'on demande à la peinture. Je vois pas pourquoi on le demanderait pas au cinéma et au théâtre. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir aussi à sourire et à s'émerveiller. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on peut s'émerveiller de déplaire aussi, je crois.
Une échappée de Totemic avec Isabelle Huppert, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Isabelle Huppert est l'une des rares artistes à pouvoir tenter des expériences sur les planches ou face à une caméra dans le monde entier. Récemment, elle fut sur scène en France, elle le sera bientôt en Italie, puis en Chine, et elle est dans les salles de cinéma françaises mercredi prochain avec Sidonie au Japon d'Élise Girard. Un film parfois burlesque, parfois fantastique, où la pâleur de son visage fait ressortir sa rousseur. Elle arrive à notre lieu de rendez-vous avec des lunettes noires. C'est le Christine Cinéma Club qu'elle a choisi, lieu historique de la cinéphilie parisienne, pas loin des quais de la Seine. Bellissima de Visconti avec Anna Magnani est à l'affiche. On entre dans la salle vide et éclairée, assise pile au milieu sur des fauteuils bleus.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
J'aimerais déjà que vous me présentiez le lieu que vous avez choisi.
Alors, le lieu que j'ai choisi, c'est le Christine Cinema Club. C'est un cinéma dont s'occupent mon fils et son père, Lorenzo Chama et Ronald Chama.
Est-ce que vous êtes cinéphile depuis le début, depuis vos débuts ?
Pas spécialement. J'allais pas beaucoup au cinéma quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je n'y vais pas toujours autant que j'aimerais, ni que je devrais. Devrais, c'est pas le mot, il n'y a pas d'obligation. Mais j'aime infiniment aller au cinéma. C'est toujours une promesse de... Une promesse, tout simplement.
Et est-ce que votre vie de spectatrice nourrit votre vie d'actrice ?
Pas du tout. Il n'y a pas grand-chose qui nourrit ma vie d'actrice, bizarrement. À part mon imaginaire. Alors, il faut bien que mon imaginaire se nourrisse de quelque chose. J'ai toujours pensé qu'on pouvait être actrice en ne sortant pas du tout de chez soi. Parce qu'on n'est jamais actrice par imitation. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, à l'inverse, je peux dire aussi le contraire, parce que pour être actrice, si, il faut sortir de chez soi, parce qu'il y a les rencontres, il y a quand même ce qui peut vous inspirer dans les choix qu'on fait. Voir des films, voir des pièces, lire des livres, c'est inspirant pour savoir qui on a envie de rencontrer, par exemple, par hasard. Le lapsus, c'est intéressant, parce que c'est aussi par hasard qu'on rencontre les gens, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, ça n'influe pas sur la manière dont je vais être actrice. Ça, je ne crois pas.
Vous parliez des choix. Est-ce que la façon de choisir vos films a changé ? Ou est-ce que vous avez la sensation, avec le recul, que finalement, ces choix répondent à une idée fixe ?
Eh bien, ça serait plutôt la seconde hypothèse. Ça répond plutôt à une idée fixe. Et ça n'a pas beaucoup changé depuis le début.
Comment vous la définiriez, cette idée fixe, alors ?
Cette idée fixe... Ça serait une conversation entre moi et moi. Ça serait ça, l'idée fixe. Évidemment, avec le souhait, non pas que ça atteigne le plus grand nombre, mais que ça dise quelque chose aux autres, évidemment.
Alors, quelle place vous accordez au succès ?
Une grande place, mais en même temps, une place relative aussi, parce que c'est une question d'adresse. Chaque film ne s'adresse pas à tout le monde, et pas forcément au plus grand nombre. Le succès, c'est pas forcément hégémonique. Moi-même, j'aime certaines choses et j'en aime pas d'autres. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde.
Alors, si le succès n'est pas hégémonique, c'est quoi le succès pour vous ?
Eh bien, c'est le plaisir à faire quelque chose, déjà. Ça, c'est évidemment le succès. Et ça, c'est une grande chance, déjà, de faire quelque chose qu'on aime, d'en vivre aussi. Soyons pragmatiques. C'est un privilège extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, ça reste un plaisir inégalé. Aussi bien de faire des films que de jouer au théâtre... C'est de l'ordre du plaisir immédiat, du plaisir pur.
Vous pouvez vous dire justement, il y a des rôles que je n'interpréterai jamais ?
Ah non, je ne me suis jamais dit ça. Non, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Je n'ai pas beaucoup d'idées, moi. J'ai découvert ça récemment. Quelqu'un me demandait si j'avais eu des idées, par exemple, en abordant à propos du spectacle de Romeo Castellucci, Bérénice, que je joue en ce moment, qui m'a fait dire que je n'avais pas d'idée. Je ne pense pas qu'un acteur doive avoir des idées, d'ailleurs. Enfin, j'aime à penser, et même à dire, que j'aime bien ne pas avoir d'idées, parce que ce n'est pas à moi de les avoir, les idées. Voilà. Moi, j'ai juste à raconter les idées des autres. À supposer qu'elles me plaisent, évidemment. Je ne suis pas non plus complètement née de la dernière pluie. Mais, voilà. Et je ne sais pas si je réponds directement à votre question. Qui est, je ne sais pas ce que...
Peut-être qu'on a perdu le fil. Oui, on est deux à avoir perdu le fil, là.
Mais c'est pas grave. C'est bien de perdre le fil.
Ah oui ?
Oui, bien sûr, c'est bien de perdre le fil. C'est comme ça qu'on joue, justement, je crois. En perdant le fil, d'un coup, on est porté, on est mu, on est agi par quelque chose. Et c'est là que se passe le meilleur, je pense. C'est ce qui fait dire aussi que jouer, c'est par définition de l'improvisation. Vous savez, quand les gens opposent souvent un jeu, enfin, imaginairement, qui serait préparé, qui s'opposerait à l'improvisation, non. C'est Robert Wilson qui dit ça. Acting is improvising. Ça, c'est vrai.
Mais si jouer, c'est improviser, entre le moment où vous êtes dans la vie et puis le moment où il est question de jouer, est-ce qu'il y a une frontière ? Est-ce que c'est le fait d'être regardé qui fait qu'on se met à jouer ? Qu'on n'est pas pareil ?
À la fois qu'on n'est pas pareil, qu'on est quand même pareil, parce que c'est ça qui est amusant quand on joue. C'est que... il est même conseillé d'être soi-même. C'est là qu'on atteint, justement, une forme de vérité, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, on se croit, parfois, enfin, moi pas en tous les cas, mais obligé d'exprimer certaines choses. Le jeu, parfois, tente à vous faire additionner, rajouter quelque chose, alors que je crois que le jeu, c'est soustraire, moi. Justement, pour revenir à plus de vérité. Et la seule chose qui compte, c'est de faire circuler du vivant. Je préfère dire ça plutôt que de convoquer le naturel. Le naturel, c'est, je sais un peu moins ce que c'est. Le vivant, je sais ce que c'est, je pense. Et ça, justement, ça passe que par la liberté. Évidemment, la confiance dans la personne qui vous filme et puis qui vous accorde le privilège et la possibilité de prendre cette liberté. C'est-à-dire, tout d'un coup, de rien faire. Là, on croit qu'il faudrait faire quelque chose. Alors que souvent dans la vie, dans beaucoup de situations, on est surpris de constater qu'on fait plutôt moins que plus. Et le cinéma, évidemment, c'est le média inespéré pour donner de la consistance à ce rien.
Mais vous dites, vous êtes au service des idées des autres, ce n'est pas à vous d'avoir des idées. Mais par exemple, vous êtes actrice autant qu'autrice. Vous avez fait la couverture des cahiers du cinéma comme une cinéaste. Vous êtes aussi autrice quand vous jouez.
Un peu aussi, vous avez raison, parce que j'arrive, c'est pas non plus un effort, hein, mais il se trouve que j'envisage en tous les cas de raconter ma petite histoire ou de faire mon film à l'intérieur du film. C'est d'ailleurs peut-être plus fréquent qu'on ne pense. Il y a toujours plusieurs films dans un film. J'ai l'impression que je n'ai pas encore répondu directement à votre question et qu'elle était formidable, votre question, mais que je m'en suis déjà éloignée. C'était sur quoi ?
Sur le fait que vous étiez aussi autrice.
Ah oui, c'est ça, parce que vous faisiez allusion à ce numéro que j'avais fait. Et ça avait été une belle aventure, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Antoinette Fouque, je crois.
Oui, absolument.
Nathalie Sarraute.
Oui.
Oui, mais j'avais voulu explorer des champs différents que le champ pur du cinéma.
Notamment celui de la photo. J'ai souvenir d'une série de portraits de vous, de Booba.
Oui, absolument. Bien sûr. Mais j'avais aussi, vous avez tout à fait raison, à l'occasion de ce numéro des cahiers, rencontré Cartier-Bresson, notamment, et peut-être là où il ironise.
Là, vous citez Cartier-Bresson. Il y a un point commun entre le travail de l'acteur et les photos, enfin, telles que les abordait Henri Cartier-Bresson. Dans tous les cas, il y a une histoire d'instant décisif.
Alors oui, vous avez raison. C'est un instant décisif et c'est vrai qu'il y a aussi un instant décisif au cinéma. C'est vrai. Et même au théâtre. C'est pour ça d'ailleurs que j'aurais du mal à être metteur en scène, parce que je pense qu'être metteur en scène, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et moi, je suis décidophobe, donc j'aurais énormément de mal à me retrouver dans ma salle de projection, à me dire, mais je choisis quelle prise, parce que c'est vrai que, par définition, chaque prise, chaque moment est décisif, dans le sens que la seconde d'avant ne sera jamais comme la seconde d'après.
Dans quelques jours, Isabelle Huppert sera à l'affiche de Sidonie au Japon, le troisième film d'Élise Girard.
C'est l'histoire d'une femme invitée au Japon, parce que le best-seller qu'elle a écrit il y a plusieurs années y est traduit et publié. Une fois à l'aéroport avec ses valises, Sidonie espère avoir raté l'avion. Mais non, à son arrivée, elle est accueillie par son éditeur, qui est francophone. La rencontre avec cet homme et avec son pays va profondément modifier cette femme. Isabelle Huppert et Tsuyoshi Ihara, extrait de Sidonie au Japon, en salle la semaine prochaine.
Bonjour.
Bienvenue au Japon, Sidonie-san.
Vous travaillez avec mon éditeur ?
Non, je suis votre éditeur. Je suis Kenzo Mizoguchi.
Ah, je ne pensais pas que vous étiez si grand. Je vous imaginais très vieux. Enfin, ou très très jeune. Enchantée.
Il y a du burlesque dans le film, notamment dans la gestuelle. Moi, j'ai pensé au cinéma muet.
Ça me fait très plaisir,
ah ouais,
ce que vous dites.
Oui,
ça me fait très très plaisir. Oui, oui, parce que dans le cinéma muet, il y a c'est là, souvent un langage du corps, un langage aussi. Les expressions sont très très importantes, puisque
pas réaliste.
Non, pas réaliste. Alors là, pour le coup, souvent, parfois avec une légère exagération pour pallier l'absence de parole. Mais c'est vrai que là, dans le film, il y a du burlesque. Alors là, qui est provoqué par le choc des cultures, mais d'une manière, je trouve très gracieuse de la part de Élie Girard. On tombe jamais dans la caricature ni dans une chose qui pourrait devenir plus malaisante. Non, c'est juste là, comme un précipité chimique, c'est deux situations, deux corps comme ça qui, étant ensemble, fabriquent des situations drôles. Il faut dire aussi que cet homme japonais que je rencontre,
qui est votre éditeur là-bas,
qui est mon
film,
éditeur, Tsuyoshi, le nom de l'acteur, il est très 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 grand. Moi, je suis pas très très grande. Alors immédiatement, Ça s'est trouvé comme ça. Et il marchait très vite. Alors, et moi, on s'en est même pas parlé. Mais je me suis souvent trouvé
à trottiner.
À trottiner derrière lui et à essayer. Et c'est assez beau parce qu'on n'a pas envie de lui en vouloir. Et on ne pense pas qu'elle se moque de lui non plus. C'est-à-dire que tout est savamment dosé pour que ça procure juste quelque chose d'assez charmant et d'assez drôle.
Dans le film, vous avez un visage très blanc, très pâle. Et on n'en voit que plus votre rousseur. Est-ce que votre rousseur a décidé de quelque chose dans votre parcours ?
Ah oui, c'est une très bonne question. Oui, parce que les roues, souvent, ils sont. Il y a toute une sorte de petite mythologie comme ça autour des roues, comme on sait. Moi, j'étais encore beaucoup, beaucoup plus rousse. D'abord, là, je suis blonde, beaucoup plus, parce que après Sidonie, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je ne sais plus pour quel film. Quoi qu'il en soit, j'étais encore beaucoup plus rousse quand j'étais petite, donc j'ai vraiment démarré l'existence très 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 rousse, avec plein de taches de rousseur.
Mais on joue différemment selon la couleur de cheveux ?
Alors, oui, ça je le pense, bien sûr. Et ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans un film que j'ai fait avec Chabrol, qui était Rien ne va plus, avec Michel Serrault, où on jouait beaucoup sur l'artifice du changement de cheveux. Je démarrais le film avec une perruque noire, et après je passais par des tas de changements différents, et puis après j'avais des cheveux très courts, blond roux, mais tout d'un coup on ne savait plus quelle était ma vraie couleur, on ne savait plus si ma vraie couleur était un artifice de plus, un masque de plus, ou au contraire, c'était très amusant. Et ça passait toujours par des transformations capillaires comme ça. Donc ça modifie quelque chose, et les chaussures. Chantal Akerman, à qui on demandait comment elle avait trouvé un rôle, je crois, où elle disait « in my shoes », et elle avait entièrement raison. Selon qu'on est à plat, ou légèrement en hauteur, ou ça modifie beaucoup de choses. C'est très important, les chaussures. Et le reste suit. Your mouth floats above my bed at night. My own, a private moon. Voici un duo, Björk et Rosalia. Just because the mind can make up whatever it wants doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen. Just because she can. Please, could I change that? Is that the right thing to do? Or I just don't know.
can I kiss him? Just because she can. I just don't know. Hey.
Isabelle Huppert, Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
Parmi tous les grands cinéastes avec qui vous avez travaillé, j'ai l'impression que certains ont évidemment des points communs, et notamment l'ironie. Je pense à Chabrol.
Mais complètement. C'est la marque des grands cinéastes. On peut être sûrement être un très 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 grand cinéaste sans cette injonction forcément à l'ironie, mais la plupart du temps, il y a quand même une distance, c'est vrai en littérature aussi. C'est difficile de dire exactement si c'est de l'ironie, de l'humour, enfin, oui, il y a comme ça une espèce de sas, ça n'empêche pas l'émotion, pas du tout, je crois.
Ça évite le sentimentalisme.
Oui, ça évite le sentimentalisme. Et il y a une distance. Et c'est vrai pour Haneke, c'est vrai pour Chabrol, c'est vrai pour Verhoeven. C'est surtout vrai pour Verhoeven.
Paul Verhoeven, avec qui vous avez tourné Elle.
Voilà. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on se force à faire. Mais c'est très amusant à faire. Moi, j'ai énormément de plaisir quand j'ai la possibilité, à travers les dialogues, à travers de faire passer cette petite froideur ou cette ironie... C'est un grand plaisir, c'est assez jouissif de faire ça dans l'exercice d'acteur. C'est-à-dire justement de ne pas non plus être tout le temps forcément ramené à l'obligation, oui, d'être émouvant ou d'être sentimental. Quand il y a en permanence cette soupape, j'ai du mal à la nommer parce que peut-être qu'ironie, c'est pas bien rendre justice à ce que c'est exactement. Une distance.
Une distance avec humour.
Oui, une distance avec...
Et lui. Un humour un peu grinçant aussi.
Oui, l'humour c'est toujours un peu grinçant. J'ai l'impression, peut-être pas.
Ce qui renvoie à cette réplique que vous avez déjà citée de la pianiste, où le professeur de piano que vous êtes dit à votre élève...
La froideur, ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand elle l'entend jouer qu'elle comprend justement que... Il y a trop d'esbrouf, il y a trop de prétention, il y a trop d'expression. Et c'est ce qui lui fait intuitivement penser que c'est comme ça aussi qu'il va l'aimer, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'aimer comme elle veut, en tous les cas.
De façon trop dégoulinante.
À la fois trop dégoulinante et puis pas assez belle, pas assez pure. Voilà. Et l'histoire lui donne raison.
Vous pouvez aussi choisir un film pour un dialogue.
Parfois, c'est une phrase qui retient mon attention et c'est sur cette phrase que se cristallise mon intérêt pour le rôle. C'est assez curieux. Alors, encore faut-il que le scénario autour soit...
Tienne la route.
Tienne la route, quand même. Une phrase, ce ne serait pas tout à fait assez suffisant. Mais, peut-être un scénario sur lequel j'hésite, ça peut retenir mon attention. Et alors, sur un scénario que j'aime, alors c'est là que se fixe mon intérêt. Dans beaucoup de films, comme ça, je retiens des phrases. C'était dans une affaire de femme. C'était quand je viens voir... mon jeune amant qui a été joué par Nils Tavernier. Et puis il y a quelqu'un qui m'aborde sur le chantier et je lui réponds, je viens pas pour la grue, je viens pour le grutier. Je trouvais ça drôle. Ça me plaisait bien. À jouer et puis à regarder et à écouter.
On écoute la chanson que vous avez choisie ?
Avec plaisir.
Pour Totémique, Isabelle Huppert a choisi « Je n'attendrai pas », chanson de Stéphane Escher.
T'as de l'eau dans les veines, t'as des pensées trop saines, d'être un vieil homme maladroit, que la solitude faudroie, que tous mes amis me lâchent, que chaque pièce soit à sa place, que nos jours nous soient comptés, que nos fêtes soit annulé, de ne plus trouver ta trace, de mendier le temps qui passe, de ne plus savoir ton nom, de n'avoir plus d'horizon. Je n'attendrai, n'attendrai.
J'en ai les larmes aux yeux.
Que la même.
Je trouve cette chanson extraordinaire. Vous trouvez pas?
Oui. Pour tout.
pour tout,
pour le texte,
pour le texte et pour la musique. Je la trouve magique.
Écrite par Philippe Dion, le texte est de Dion.
C'est curieux parce qu'il nous habitue dans ses livres à des tons un peu plus...
ironique.
Ironique, justement. J'essaie désespérément de trouver un mot un petit peu plus fun, mais... Pardon. Oui, un peu plus ironique. Et là, tout d'un coup, il y a une gravité, une émotion, mais il y a aussi la voix de Stéphane Escher et encore une fois, ce thème musical qui est quand même exceptionnellement beau. Mais c'est vrai ce que dit Philippe Dion dans ses mots, c'est la vie. Voilà. Le temps qui passe, c'est vrai.
Le texte, c'est « Je n'attendrai pas », ce qui veut dire « Plus tard, c'est maintenant ». Vous pensez comme ça ?
Ah oui, moi je pense... oui, je pense à maintenant, tout le temps. De plus en plus. Mais ça, c'est normal. Plus on avance dans la vie, plus on pense à maintenant. Vous savez, dans Malina de Werner Schroeter, j'étais prof de philo.
Et ça a l'air de vous étonner.
Oui, oui, parce que... Pourtant, là, je suis écrivain dans le film de... Non, mais... c'est toujours difficile de faire croire à des métiers dans les films, je trouve.
Pourquoi ?
Je sais pas. Parce qu'il faut y croire. Alors, en même temps, il n'y a pas de stéréotype ni de l'écrivain, ni du prof de philo, ni de n'importe quel métier. Mais il faut quand même qu'on y croit. Quoi qu'il en soit, oui, je disais ça parce que je donnais un cours sur Wittgenstein et je parlais toujours de l'ici et maintenant. Voilà.
Mais je remarque que vous avez écouté cette chanson avec une concentration. Vous étiez dedans, quoi.
Ouais, complètement. Mais en plus, on peut dire, oui, que j'avais le casque sur les oreilles. Alors tout d'un coup, on a une intimité avec le son. C'est extraordinaire. Je ne vais plus écouter des chansons que comme ça. J'écoute pas beaucoup de musique, en plus. Bizarrement.
Ça vous fait trop d'effet ?
Non, mais oui, comme vous pouvez voir, ça me fait de l'effet. Oui, ça peut me faire trop d'effet. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Nathalie Sarraut, que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup vue, et on s'aimait énormément. Et Nathalie Sarraut, elle me disait qu'elle n'aimait pas trop écouter de la musique, et je comprenais ça bien, mais je trouvais que c'était intéressant qu'elle le dise comme ça. Je disais, mais pourquoi ? Elle me disait, parce que ça l'émeuvait trop. Donc ça la faisait, j'imagine, entrer dans quelque chose de trop vaste. Et c'est vrai que j'écoute pas tout le temps de la musique.
Quel rôle joue l'écoute ? Parce qu'on se dit toujours que jouer, c'est dire des trucs.
Jouer, c'est, vous avez tout à fait raison, c'est savoir écouter, justement. C'est tenir le temps, et ça peut durer, peut-être pas une éternité, mais très longtemps, justement. Moi, j'adore écouter. Parce que ça raconte vraiment quelque chose du lien qu'on a avec l'autre. Et c'est pas simplement pour faire exister l'autre, mais c'est pour se faire aussi exister soi, tout simplement.
Lui, c'est Luigi.
J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois.
Rester en vie, c'est le titre de ce morceau.
J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h, semaine de 48 heures. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission, pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son ou de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions. Prends soin de toi. Trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeune, souvent mange bien. Garde la tête haute, même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, C'est plus dur que d'avoir le monde contre toi, mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis et l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes en vie.
Isabelle Huppert était récemment sur scène à Montpellier et à Paris pour Bérénice de Racine, qu'elle va jouer dans quelques jours à Milan. Bérénice et Titus s'aiment, mais au moment où il devient empereur, Titus choisit de renoncer à son amour pour elle. Pour ce spectacle, Isabelle Huppert a travaillé avec le metteur en scène italien Romeo Castellucci, et du texte de Racine n'ont été gardés que les vers prononcés par Bérénice. Isabelle Huppert joue donc sans partenaire, sa voix est amplifiée, démultipliée, pour une expérience et visuelle et sonore.
Que le jour recommence et que le jour finisse. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus. Alors là, dans cette expérience, parce que vous avez raison plus que jamais de parler d'une expérience, on s'est beaucoup vu depuis le mois de septembre, uniquement pour travailler sur le son. Et en fait, le travail a commencé par ça, notamment pour faire un travail à partir de ma voix, parce que toutes les voix qu'on entend indépendamment de moi, c'est ma voix. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où je suis seule. C'est Bérénice et son obsession de Titus. Donc, au fond, c'est toutes les voix en elles-mêmes qui s'entrechoquent. Donc, c'est comme ça une espèce d'immersion totale dans un dialogue imaginaire avec Titus. Donc on peut imaginer que, enfin je vous dis ça sur le moment, j'ai jamais pensé à ça, mais qu'elle entend sa propre voix démultipliée ou modifiée justement dans son adresse à Titus, me dis-je. Je pense que c'est ça que, peut-être sans se le formuler aussi clairement, Romeo Castellucci tente d'atteindre.
Vous êtes seul en scène?
Oui.
Ce n'est pas la première fois où vous avez été seul en scène pour Bob Wilson avec Orlando.
Et Marie Sade.
Et Marie Sade, où on entrait dans la tête de Marie Stuart. Pour Claude Régis aussi.
Dans Psychose, oui.
Quel est le plaisir d'être seul en scène?
Il est immense. C'est pas que j'ai pas de plaisir à être avec les autres. Comprenez-moi bien. Mais on n'est pas seul. On traverse tellement d'états, tellement de situations, tellement de... En plus, c'est des spectacles où à chaque fois, le corps est très très présent, et d'une manière évidemment très stylisée, pas du tout réaliste, mais justement, ça occupe. Donc, on n'est pas seul. Je ne sais pas comment mieux le dire, on est seul, mais avec une telle multiplicité d'états, de sensations, d'autres soi que soi-même, on n'est pas seul.
Pour Bérénice, Isabelle Huppert a donc travaillé avec le metteur en scène italien Romeo Castellucci, qui est aussi plasticien, qui fait entrer sur scène performances d'art contemporain, mode, cinéma. C'est le théâtre dans tous ses états. Et pour la musique, que vous entendez là, sous ma voix, Castellucci travaille avec le concepteur sonore et musicien américain Scott Gibbons.
Moi, j'ai pensé à Björk dans ce spectacle.
Ça, c'est un très très grand compliment que vous me faites, parce que il se trouve que j'ai rencontré Björk récemment, qui est une personne tout à fait exceptionnelle, et plus tard, un peu par hasard, je suis retombée sur le film de Lars von Trier pour lequel elle a eu le prix, et j'étais vraiment hallucinée. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est absolument extraordinaire. J'ai rarement vu ça au cinéma.
C'est-à-dire ?
Vous savez, c'est ce genre de performance, enfin de moment où on se dit, il n'y avait pas de caméra. On ne peut pas imaginer qu'elle... Et après, on se dit, si c'était du cinéma, s'il y avait une caméra, s'il y avait une équipe, si on a dit moteur, si on a dit coupé. C'est ce qu'on voudrait voir la plupart du temps au cinéma. C'est, on ne le voit pas tout le temps. Mais elle est incroyable dans le film. Incroyable. Donc, quand vous me dites que ça vous fait penser à Björk...
Mais aussi sur tout le travail sonore. Parce que c'est vraiment une artiste qui fait exister son corps, l'intérieur de sa bouche, la façon dont sa voix existe. Il y a de ça, je trouve. Y compris dans les costumes, d'ailleurs.
Bah, oui, les costumes de Iris van Herpen, oui. Mais ça, c'est évidemment la force de Romeo Castellucci, je pense, d'emprunter aussi à des tendances, c'est pas un mot qui convient,
À d'autres univers.
Oui, à d'autres univers, mais d'univers du moment, des choses qui se passent, c'est-à-dire des sons qu'on entend en ce moment. Iris van Herpen a une exposition de ses robes au Musée des Arts Décoratifs en ce moment, donc voilà. Et ça, c'est sa force, je trouve. Mais tout simplement, je pense que c'est intuitivement qu'il le fait, hein. C'est pas non plus d'une manière forcément raisonnée.
Comme on est à la radio, j'aurais une dernière question. On a parlé de l'écoute. Quelle est la place de la radio dans votre vie ?
Elle est essentielle. Je fais beaucoup rire mes amis et proches qui savent que je peux leur raconter le... Comment on appelle le...
La grille de programme.
La grille de France Inter, de France Culture. J'écoute énormément la radio. J'adore ça. C'est passionnant, la radio, je trouve. Vous n'allez pas me dire le contraire.
C'est sûr.
C'est une fenêtre sur le monde. Et je l'écoute vraiment.
On passe à votre carte blanche ?
J'ouvre mon sac.
Ouais.
Alors, je vous dis ce que j'ai choisi.
Ouais.
J'ai choisi un livre de Janet Winterson, qui est une écrivaine anglaise, formidable, qui a eu un parcours assez chaotique dans son enfance, donc qui revient essentiellement sur ce parcours dans un de ses livres les plus connus, qui est « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Et donc, je vais vous lire un petit extrait de « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» de Janet Winterson. Ma mère, Mrs. Winterson, n'aimait pas la vie. Elle ne croyait pas que quoi que ce soit puisse rendre la vie meilleure. Elle m'a dit une fois que l'univers était une poubelle cosmique. Et après y avoir réfléchi un moment, je lui ai demandé si le couvercle était ouvert ou fermé. Fermé. Personne n'en réchappe. La seule échappatoire était Armageddon. La dernière bataille, le jour où le ciel et la terre seraient roulés comme un parchemin et seuls les élus pourraient vivre éternellement aux côtés de Jésus. Comme du temps de la guerre, elle avait un placard qui servait de réserve. Toutes les semaines, elle y déposait une nouvelle conserve. Certaines étaient là depuis 1947. Et je crois que quand la dernière bataille commencerait, le plan était de se réfugier sous les escaliers et de nous nourrir de ces conserves, entourées de tubes de cirage. Mes succès précédents avec l'ouverture des boîtes de corned beef m'ont rassuré. Nous allions piocher dans nos vivres en attendant Jésus. Je me demandais si nous allions être personnellement libérés par Jésus. Mais Mrs. Winterson ne le croyait pas. Il enverra un ange. Il en irait donc ainsi, un ange sous les escaliers. Je me demandais comment il pourrait rentrer dans le cagibi avec ses ailes. Mais Mrs. Winterson a précisé que l'ange ne nous rejoindrait pas vraiment sous les escaliers. Il ouvrirait seulement la porte et nous dirait qu'il était temps de partir, que notre demeure céleste nous attendait. Ces interprétations élaborées d'un avenir post-apocalyptique lui occupait l'esprit. Parfois, elle semblait heureuse et jouait du piano, mais le malheur n'était jamais loin. Une nouvelle pensée venait assombrir sa vision et elle s'arrêtait brusquement de jouer, fermait le couvercle et faisait les 100 pas. Allait et venait dans l'allée derrière la maison, sous les fils où séchait le linge, tournait en rond comme si elle avait perdu quelque chose. Elle avait bien perdu quelque chose. C'était une chose de taille. Elle avait perdu, perdait la vie. Nous aurions dû nous entendre en matière de perte, passée et présente. J'avais perdu le refuge sûr et chaud, bien que chaotique, de la première personne que j'avais aimée. J'avais perdu mon nom et mon identité. Les enfants adoptés sont délogés. Ma mère sentait que la vie tout entière était un grand délogement. Nous voulions toutes les deux rentrer à la maison.
Merci beaucoup, Isabelle Huppert.
Merci à vous, Rebecca.
Isabelle Huppert est à l'affiche de Sidonie au Japon d'Élise Girard. Le film est en salle mercredi prochain. Merci à Koy Nguyen qui réalise Totémique avec Lison Berger ce matin. Merci à Perrine Malinge qui programme les invités de l'émission. Ilinka Negulesco qui la prépare. Et JB Audibert qui en choisit les disques. La semaine prochaine, vous et moi avons rendez-vous avec l'écrivain Jean-Paul Dubois.